Vous écoutez l'épisode 134 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Avis à tous les utilisateurs de Chromebook, Chrome OS 124 a débarqué avec un tas de nouveautés, menus repensés, bureau virtuel facilité, curseur géant, zoom de la photo, la visio priorisée. Nous allons explorer ensemble ce soir toutes ces nouveautés et ce n'est pas tout, parce que avec Amandine ce soir nous allons dévoiler des astuces comme le mode sonde drive, taskboard à de l'agenda ou le public postage dans Gmail. Bref, un tas de nouveautés qui arrivent sur nos Chromebooks et sur les outils Google. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné, vous l'avez compris, d'Amandine Carlier. Bonsoir Amandine, comment vas-tu ce soir ?
Bonsoir Nicolas, bah, très bien, merci. Après le week-end prolongé, ça fait du bien de se retrouver tous ensemble.
Ah, effectivement, en plus il a fait beau, alors je sais pas chez toi, on a eu de magnifiques aurores boréales, une exclusivité qu'on vous a lancée comme ça, c'est le CKB Show qui a dit tiens on part en apothéose, on met des aurores boréales un petit peu partout, donc j'espère que tu as pu en profiter de par chez toi.
Oui, c'était pas mal.
Eh ben, c'est top. Écoute, on va souhaiter une bonsoir à Laurent, à 22 à Épernon, à Didier, à Mathieu qui nous ont rejoints ce soir sur le chat YouTube. Et évidemment, on souhaite le bonsoir à tous ceux qui sont présents sur les différents autres réseaux type Twitter et Facebook. Bonsoir à vous tous. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Nous répondrons à toutes vos questions, à vos interrogations ou à vos suggestions de correctifs ou même de nouvelles applications que vous auriez voulu nous passer. Amandine, de passer au vif du sujet, sache que si nos auditeurs veulent nous soutenir, parce qu'ils peuvent nous soutenir, alors évidemment, un pouce en l'air pour tous ceux qui apprécient le travail sur le CKB Show, ton travail parce que tu vas nous apporter de super solutions dans l'épisode de belles astuces qui vont changer la vie au quotidien des utilisateurs des outils Google. Et donc, si vous voulez nous soutenir, évidemment, un petit pouce en l'air, laissez un commentaire sur la vidéo YouTube. Mieux encore, vous pouvez prendre de force les téléphones de vos amis et puis aller sur l'application podcast que vous appréciez pour enregistrer, pour vous abonner, enfin les abonner au flux du podcast pour qu'ils ne loupent aucune astuce, aucune nouveauté autour des outils Google. Vous allez voir, ils vous remercieront parce que si vous vous appréciez, il n'y a pas de raison qu'eux n'apprécient pas. Et puis si vous voulez vraiment nous soutenir encore plus, passer un seuil supplémentaire, vous pouvez vous rendre sur patreon.com/mychromebook et pour quelques euros par mois, nous soutenir financièrement directement dans le Patreon, et avec ça vous obtenez même des informations et des petites astuces privées via Patreon, et puis vous accédez à un salon privé sur notre Discord où là vous pouvez nous poser des questions en direct live. Et dernièrement j'ai réactivé sur le site mychromebook.fr pour tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon la suppression totale des publicités. Oui, parce que les publicités c'est bien gentil, ça nous fait vivre, mais qu'est-ce que c'est désagréable quand il faut lire un site web avec plein de publicités. Donc ça vous évitera d'activer votre adblocker et puis vous pourrez profiter de tous les articles sans aucune publicité sur le site, et évidemment la totalité de notre gratitude au quotidien et à vie si vous nous soutenez sur patreon.com. Et évidemment, comme peut le faire Jean-Luc, vous l'avez peut-être remarqué dans le chat, Jean-Luc nous soutient lui avec des stickers sur YouTube. Alors vous pouvez faire quelques petits stickers pour nous encourager tout au long de l'épisode et nous motiver encore à aller jusqu'au bout, toujours avec la banane, avec le sourire, avec la joie qui nous anime au quotidien. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir. Ce soir, Amandine, on a quand même pas mal d'informations. Quand je t'ai demandé si tu voulais venir, évidemment, je crois que tu as mis quelques secondes à répondre un grand oui avec que des majuscules, il me semble, et ça m'a fait énormément plaisir, et ça fait plaisir à tout le monde. On m'a demandé, la dernière fois que tu es venu, on m'a dit quand est-ce qu'elle revient. Je fais attendez, chacun son tour, et puis on a des vies aussi. Et du coup, voilà. Et en plus, on m'a dit, je te l'ai dit au début, avant l'enregistrement, de te laisser parler plus. Alors oui, je vais essayer de te laisser la parole. peu plus. Parce que oui, je parle beaucoup, je sais. Et ça va pas en s'arrangeant parce que le premier sujet qu'on va aborder, tu l'as vu, on va parler de Chrome OS 124, donc la nouvelle itération du système d'exploitation de Google. Alors, on en parlait, tu me disais tout à l'heure, utilisé en fonction des formations où tu es, tantôt un appareil sur un système d'exploitation tierce et tantôt sur un système d'exploitation Google. Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Et évidemment, je veux pas forcément que tu dises Chrome OS, hein, c'est pas grave si tu aimes autre chose, mais est-ce que tu as une préférence dans l'usage ou dans ton quotidien quand tu travailles tes formations?
Oui, alors dans mes formations, ça c'est sûr, je te le disais, je suis aussi sur je suis sur PC parce que j'essaie de m'adapter aussi au mieux à mes apprenants. Donc si mes apprenants sont sur PC, bien sûr que je vais emmener mon PC avec moi pour pouvoir être au plus proche de ce que eux vivent au quotidien. C'est vraiment j'axe vraiment sur une utilisation quotidienne. Donc oui, effectivement, j'ai un PC. Mais c'est plus mon préféré maintenant. J'ai mon petit chouchou, c'est le Chromebook, parce que je trouve ça plus facile d'utilisation, c'est plus fluide, ça correspond plus en fait à ma manière d'être et de vivre le travail. Et voilà, Microsoft, c'est un petit peu passé pour moi. Je n'ai aucune, je fais pas de la publicité pour l'un ou pour l'autre, j'ai les deux. Je le dis, j'ai les deux.
Comme beaucoup de monde, hein, d'ailleurs, on officie souvent sur l'un ou sur l'autre. Alors, il y a aussi les fans de Mac, hein, évidemment. Tu vois, j'ai fait un article pour milieu de semaine, là, qui parle du minimalisme et centré autour d'un ordinateur et où j'explique que Chrome OS, pour moi, évidemment, ce n'est que mon point de vue et il n'est pas forcément le plus... c'est au doigt levé, hein, c'est que le mien, d'avis. Où j'explique que Chrome OS, pour moi, a simplifié énormément de choses. Au même titre que mon bureau, vous ne le voyez pas, mais mon bureau, il est vide. J'ai deux écrans devant moi, un clavier et une souris, point. J'ai rien d'autre. J'ai une gourde parce que j'ai soif, mais c'est tout. Et Chrome OS, bravo, félicitations. Et Chrome OS, pour moi, c'est exactement la même chose qu'avoir le bureau le plus vide possible. Je déteste les milliers d'icônes qui traînent sur mon bureau parce que je m'y perds totalement. Je déteste d'ailleurs les dossiers en général, hein, que ça soit physique chez moi ou même virtuel. J'adore Chrome OS dans le fait où, juste avec un moteur de recherche dans le lanceur d'application, je tape un sujet ou un mot-clé que je cherche et il va me chercher directement mes mails, mes dossiers, mes fichiers que j'aurais créés, voire une application ou un site web. Alors qu'est-ce que c'est génial, c'est vraiment, ça fait partie du minimalisme pur où t'as plus rien, t'as juste à demander, ils te trouvent, et ça je trouve ça génial. Vous verrez, j'ai fait un article, je crois qu'il paraît mardi, où je parle du minimalisme général, où je suis un fan du moins y en a, mieux c'est. Vous verrez, vous me direz, vous me donnerez votre avis. Je ne sais pas si le même cas pour toi, Amandine, si le fait de ne rien avoir sur ton bureau a été plutôt déroutant ou au contraire, aujourd'hui, tu te dis « mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant ?»
C'est ça. Je suis plutôt de la team « pourquoi on n'y avait pas pensé avant ?» Effectivement, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie professionnelle à faire des dossiers, à faire des sous-dossiers, à classer des choses. Au final, pour le jour où j'en avais besoin, plus savoir où je l'avais classé. Je ne me prends plus trop la tête avec ça, effectivement.
Eh bien, tu vois, Méziana, dans le chat, nous dit bonsoir à toi. Il nous dit Windows pour le travail et Chrome OS en perso. C'est un bon équilibre au final. Hein. Si ça fonctionne comme ça, tant mieux. Bonsoir à Didier, bonsoir à Alien, bonsoir à Hervé, au cas où je ne vous ai pas dit bonsoir tout à l'heure. Alors, on va attaquer directement. On va parler de Chrome OS 124. Et oui, c'est enfin arrivé sur quasi tous les Chromebooks qui ont encore des mises à jour, évidemment. Mais c'est arrivé, je crois, surtout. Alors, j'ai mis un petit peu de temps avant d'en parler pour être certain que tout le monde l'avait, puisqu'on me l'a dit « Ah, t'es gentil, Nicolas, tu nous parles de choses qui ne sont pas encore arrivées, et du coup on peut pas les tester, c'est presque frustrant. » Oui, je suis d'accord, donc j'ai appris de mes erreurs et je vous propose, une fois que c'est sorti, donc ça fait, je dirais, 15 jours maintenant que c'est sorti sur les Chromebooks, et ce qui est génial avec Chrome OS, c'est qu'en fait vous le savez même pas que c'est arrivé, hein. Je sais pas, Amandine, je te demandais si t'avais Chrome OS 124, t'as un peu haussé les épaules, je sais pas si ça voulait dire oui je sais, ou en fait je m'en fiche, ça marche.
Oui, non, moi, je fais pas trop attention à quelle version j'ai. Je découvre un peu au fur et à mesure. Moi, j'aime bien le matin, en fait, quand j'ouvre mon Chromebook, me dire « Oh, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Ah, tiens, ça n'existait pas. Je vais aller voir. » Voilà, je suis plutôt comme ça. Effectivement, heureusement que tu es là pour nous dire qu'il y a des choses qui changent. Moi, je le fais vraiment en dilettante.
Non, mais c'est ce que j'aime dans Chrome OS, c'est tous les matins, c'est Noël. Tu as un nouveau truc qui apparaît, tu déballes ton nouveau cadeau. Et là, en l'occurrence, le premier cadeau qui a été donné, offert à tous les utilisateurs de Chrome OS et des Chromebooks, c'est, et tu l'as peut-être vu si tu, de temps en temps, navigues dans les paramètres système de Chrome OS, tu sais, Là où on retrouve le réseau Wi-Fi, où on retrouve les paramètres d'accessibilité, où on retrouve, je ne sais pas moi, les ajustements de ton écran, de ta souris et compagnie. Je ne sais pas si tu y es allé dernièrement, mais ça a été modifié. Et ça a été super bien modifié à mon sens, parce qu'ils ont simplifié au maximum l'usage de cette page qui, à mon sens, devrait ne même pas exister finalement, parce que si on utilise le lanceur d'application, on peut accéder à toutes les... tous les paramètres sans même se soucier de cette page. Et cette page, auparavant, je ne sais pas si tu te souviens, Amandine, il y avait... en fait, on avait réseau, on avait Bluetooth, on avait appareil connecté, et puis tout en bas, on avait voir plus, avec un menu déroulant. Presque frustrant de se dire, ils nous cachent des choses, mais pourquoi ils les cachent ? Eh bien, aujourd'hui, ils l'ont enlevé, enfin. Ils ont supprimé ce voir plus, et ils ont regroupé toutes les fonctionnalités, les unes avec les autres, et de manière plutôt intelligente. Typiquement, dans appareil connecté, tu vas retrouver tout ce qui est appareil connecté. Tu vas avoir, par exemple, si tu as un smartphone de connecté avec ton Chromebook, tu vas le voir apparaître directement dans appareil connecté. Et je l'ouvre en même temps pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Tu vas avoir aussi la fonctionnalité Quick Share, tu sais, le partage rapide entre tes appareils, donc directement dans appareil connecté. C'est logique, finalement. J'aurais même aimé qu'ils mettent le Bluetooth à l'intérieur de ça, moi personnellement, puisque mon casque en Bluetooth est connecté là-dessus. Il est connecté, ça aurait pu être sympa qu'ils le mettent là, mais non, ils l'ont laissé dans Bluetooth. Et donc, en fait, ils ont vraiment recentré un peu tout ça, évité d'en dispatcher un petit peu partout, rationalisé le nombre de menus pour que ça soit beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple. Je ne sais pas si tu l'avais vu apparaître, cette nouvelle fonctionnalité, enfin, cette nouvelle interfaçage de la page de paramètres, pardon.
Si, je l'ai vu ça effectivement, et oui, le côté appareil connecté, je trouve ça sympa. Après, pourquoi pas, ça dépend si on utilise beaucoup d'appareils à côté, mais oui, j'avais trouvé ça. Pour moi aussi, je te rejoins, je trouve ça très beaucoup plus fluide en tout cas.
Ouais, et en plus de ça, je ne l'avais pas noté dans l'article que je vous mets en lien dans les notes de l'émission, ils ont changé une chose dans le moteur de recherche de paramètres. Aujourd'hui, tu peux taper à peu près n'importe quoi. J'ai fait un test ce matin, je ne sais plus ce que c'était, bref, j'ai tapé un mot mais je ne me souviens pas exactement le paramètre, le nom du paramètre, parce que ce n'est pas un truc que je vais voir tous les jours. J'ai tapé un truc au hasard en me disant ça ressemble à peu près à ça, c'était un système d'écran partagé pour savoir si je pouvais désactiver l'écran splitté. J'ai tapé écran, je crois, j'ai mis écran scindé, j'ai mis, et il m'a trouvé, je vais le faire en direct, tiens, écran scindé, il m'a trouvé directement le système pour désactiver le nouveau paramétrage pour scinder en deux ton écran en un clin d'œil, et c'est plutôt sympa, c'est pour ça que je te dis que finalement la page paramètres, elle aurait pu disparaître et apparaître dans le lanceur d'application complètement pour simplifier au maximum l'usage de Chrome OS. Hein. Et c'est ce que j'explique, c'est souvent sous Windows, je ne sais pas si tu vas de temps en temps dans les paramètres Windows, les paramètres système de Windows, je trouve ça infect. Alors c'est pas pour critiquer Windows, mais moi j'ai des difficultés à trouver des trucs, quoi.
Oui, moi aussi. J'avouerais qu'à part effectivement caster ou même pas, mettre mon écran sur un autre écran, je vais plus trop dans les paramètres de mon PC. C'est vraiment quelque chose que j'ai un peu laissé tomber ces derniers temps. Mais...
Et tu vois, Didier nous dit, c'est un hommage que Didier nous fait, sur Chrome OS on ne cherche plus, on trouve, et il y a Cyril qui arrive derrière, qui a entendu sa phrase et qui a couru en disant, oui, cette phrase est de moi, et effectivement, c'était génial, c'est bien trouvé, et je me l'approprie, Cyril, également, de temps en temps, sur Chrome OS, avec Gemini, avec Chrome OS, avec tous les outils, on ne cherche plus, on trouve, c'est un moteur de trouve, ça m'avait fait sourire, j'adore l'idée, et donc je le garde également. Évidemment, je fais toujours une petite astérix en disant que ce n'est pas de moi. Donc voilà, merci en tout cas pour ton partage. On continue un petit peu, il y a une autre fonctionnalité que j'utilise énormément dans Chrome OS, peut-être que tu le fais aussi, alors c'est pas si nombreux que ça, on n'est pas si nombreux à l'utiliser, c'est la gestion des bureaux virtuels. Est-ce que sur ton Chromebook, tu utilises plusieurs bureaux virtuels? Et déjà, est-ce que tu as une idée de ce que c'est, si jamais tu les utilises pas, pour que j'explique à tous les auditeurs si jamais il y a une incompréhension sur le produit, mais est-ce que tu utilises les bureaux virtuels et est-ce que tu as vu l'évolution?
Alors non, ça, je t'avouerai, je veux bien l'explication moi aussi sur les bureaux virtuels. Il n'y a pas de souci parce que Je navigue de session en session, mais je ne sais pas si c'est la même chose dont on parle.
Eh ben non, c'est pas la même chose. Tu vois, sur ton ordinateur, il fait 13, 14, 15, 17 pouces si t'as un gros, gros écran. Mais des fois, on sent les trois. On aimerait bien avoir un autre écran physique, tu vois, ou un autre écran tout court. Et le problème, c'est que si t'es dans le train, avoir trois écrans en face de toi, c'est plutôt compliqué. Ou même dans ton bureau, c'est pas toujours simple, on n'a pas toujours la place. Et puis, c'est un coût aussi supplémentaire d'ajouter ça. Donc du coup, on peut créer des bureaux virtuels. Donc il est sur Chrome OS, il est en bas sur l'étagère maintenant, où tu vas pouvoir rajouter un autre bureau, mais comme on l'entend en façon Windows, là où ils mettent tous les icônes. Premier bureau, tu vas l'appeler par exemple Travail. Là, tu vas ouvrir tes outils de travail, Google Doc, un Slide ou je sais pas quel outil tu l'utilises, un ChatGPT ou n'importe quel outil. Tu vas créer un deuxième bureau virtuel, donc un deuxième écran virtuel que tu vas pouvoir basculer. Tu vas pouvoir basculer de l'un à l'autre. Moi, je vous donne mon cas. Dans le deuxième cas, moi, le deuxième bureau virtuel, j'y mets tous mes réseaux sociaux. Twitter, X, LinkedIn, Facebook, j'en passe, Blue Sky et compagnie. Donc le deuxième bureau virtuel, donc je ne le vois pas, il ne me gêne pas visuellement, il est sur un bureau complètement à part. Et donc je switch d'un bureau à un autre. Donc mes fenêtres scindées en deux, donc moi j'aime bien toujours scinder en deux mon écran, voire en trois de temps en temps en fonction d'eux, mais je scinde toujours en deux mon écran puisque je suis plutôt à l'aise, je suis sur du 14 pouces, donc j'ai d'un côté mon écriture, de l'autre côté de la première fenêtre de mon premier bureau mes sources par exemple, et puis sur le deuxième bureau j'ai tous mes réseaux sociaux, donc j'ai quatre écrans, quatre fenêtres, toutes agencées pareil, mais qui sont agencées Twitter, LinkedIn et Blue Sky et Thread, qui sont agencées comme ça. Donc c'est deux bureaux différents sur lesquels je switch de l'une à l'autre en fonction de mes besoins. Ce qui fait que j'ai pas besoin de réorganiser, je ne change pas de session, c'est toujours la même session utilisateur, mais je passe d'un bureau à un autre. Et sur Chrome OS, on peut aller jusqu'à, je crois, 16 bureaux virtuels, donc 16 écrans différents, t'imagines, tu peux passer de l'un à l'autre. Alors soit tu fais avec le Alt-Tab, et tu passes comme si tu changeais simplement de fenêtre, mais là tu passes d'un bureau à un autre, ou soit tu fais avec la nouveauté Chrome OS 124, quand tu as plusieurs bureaux virtuels, en bas, donc tu as le nom des bureaux virtuels, puisque tu vas les nommer de préférence pour t'y retrouver, surtout si tu en as 16, et cette fois il y a des petites flèches droite-gauche qui te permettent de naviguer en cliquant si jamais tu n'as pas d'écran tactile, ou si tu n'es pas à l'aise avec les raccourcis clavier, ou les raccourcis trackpad avec les trois doigts quand tu pousses vers le haut ou vers le bas pour les ouvrir, tu peux maintenant switcher de l'une à l'autre très très facilement en cliquant sur la petite flèche droite pour aller sur le bureau de droite, en cliquant sur la flèche de gauche pour aller sur le bureau de gauche. Comme ça, tu t'organises. J'ai un autre bureau, je vois Didier qui me dit « je suis super organisé ». Oui, enfin, j'essaye. J'ai un troisième bureau où là, j'y mets mes emails. J'ai plusieurs boîtes mail et tous mes mails sont là. Donc en fait, j'ai juste à switcher l'un à l'autre et je ne change pas de session, je ne change pas de compte. J'ai toujours tout à portée. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils enregistrent les bureaux virtuels. Ça veut dire que si j'éteins mon Chromebook complètement et que je le rouvre à nouveau, en fait mes bureaux sont organisés de la même manière, ce qui fait que je passe d'une session d'un Chromebook à un autre et j'ai toujours la même organisation. Donc j'ai l'impression d'avoir trois écrans, sauf qu'ils sont tous virtuels. Est-ce que j'ai été compréhensible sur le bureau virtuel? Est-ce que tu l'utilisais peut-être déjà sans savoir le nom?
Oui, finalement, j'utilisais sans savoir le nom, mais effectivement, de savoir qu'on peut en avoir 16, c'est super, ça, et de nous rappeler qu'on peut très simplement switcher de l'un à l'autre, ça facilite vraiment. Et je crois que je vais le dire toute la soirée, mais ça rend plus fluide l'expérience, et ça, c'est extraordinaire. On n'est pas obligé de se déconnecter ou de passer sur un autre. Voilà, comme tu dis, si on passe sur un autre appareil, on récupère tout. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Ouais, mais c'est génial. Alors, je vais lire un petit peu le chat. Alors, je suis désolé, je vais passer à travers pas mal de choses. Il y a Miguel qui nous dit qu'il regroupe toute sa vie numérique de Lightroom pour traitement photo à la suite Google Docs sur son Chromebook Acer C852T. Tiens, je le connaissais pas celui-ci. Je vais aller jeter un œil. Évidemment, tu peux tout faire. La suite Adobe arrive de plus en plus sur Chrome OS et sur les Chromebooks. C'est juste génial. Il y a même Photoshop Online maintenant qui marche super bien avec l'IA. Bref, on a à peu près tout et c'est juste génial. J'ai vu la nouvelle interface cet après-midi pour les réglages réseau Wi-Fi. On peut plus faire le choix de WPA. Ah, on va voir. Je pense que tu te trompes. On regardera ça, Alain. Pas mal de nouveautés qui sont apparues. Et c'est génial parce que tu ouvres ton ordinateur. Il y a des petites choses qui ont changé. Il faut aimer le changement, évidemment. Autre truc hyper intéressant, si vous avez un Chromebook qui n'est pas avec un écran tactile. Oui, parce qu'il y a des Chromebooks sans écran tactile. Et un truc qui me frustre au plus haut point, c'est en bas à droite, tu reçois des notifications. tes mails, tes SMS, tes sites web qui te disent « Ah tiens, t'as un nouveau truc, c'est génial, hein, tu loupes rien grâce à ça. » Sauf qu'à un moment, elles s'empilent, elles s'empilent, elles s'empilent, elles s'empilent. Oui. Et puis à un moment, t'en as 10 000 sur ton smartphone, il y a un truc qui est bien, il y a une gestuelle qui est terrible. C'est, tu swipes à droite ou à gauche pour la virer, elle t'embête plus. Bah, ça, c'est cool. Sauf que sur Chromebook, ben, moi, je suis habitué à l'écran tactile. Alors, swiper, ça va. Par contre, là, j'ai un Chromebook Plus qui n'est pas écran tactile. Et je peux vous dire que j'en ai marre. Je suis toujours en train de mettre mes traces de doigts en bas à droite pour essayer de swiper. Le problème, c'est qu'il n'est pas tactile. Alors, du coup, elle me rit au nez, elle reste affichée. Et du coup, c'est pénible pour moi. Et ce qui est génial avec Chrome OS 124, c'est que maintenant, avec ton trackpad, tu te poses sur la notification et tu swipes avec deux doigts sur le trackpad et tu enlèves cette notification qui t'agace. Je trouve ça génial. Je sais pas si tu connaissais, j'ai découvert ça totalement par hasard. Moi, je trouve ça top, même si tu n'as pas d'écran tactile.
Oui, c'est ça, c'est pratique en fait. La solution a été pensée. C'est comme tu dis, si tu n'as pas d'écran tactile, tu peux quand même garder les gestes qui deviennent, beaucoup des automatismes maintenant de smartphone, effectivement. Et on veut les retrouver sur nos autres écrans. Moi, ça m'arrive sur mon PC de dire ah, bah regardez, toucher l'écran, il n'est pas du tout tactile. Bah, regardez, je vais prendre ma souris.
Attendez, je vais faire l'ancienne. Effectivement. Mais ouais, l'écran tactile sur un Chromebook, je trouve ça tellement pratique. Et quand tu vois qu'à des prix dérisoires, on peut avoir cet outil avec l'écran tactile, c'est dommage de s'en priver si vous avez l'opportunité d'en avoir. On se dit au début, mais non, j'en ai pas besoin. J'en ai jamais eu, j'en ai pas besoin. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, quand il est tactile, encore plus quand il est convertible, je trouve ça tellement pratique et tellement génial à utiliser. Hein. Tu prends tes réflexes, je swipe sur les sites web avec mon doigt comme je le fais sur mon smartphone finalement. J'ai tellement pris cette habitude que c'est juste génial. Autre évolution hyper intéressante que j'utilise, mais tout le temps, j'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est la configuration rapide pour les écrans partagés. Donc je scinde en deux mon écran partagé, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas le seul j'espère en tout cas, quoique quand je fais certaines formations je m'aperçois que scinder en deux un écran c'est pas si simple que ça, mais bon, moi je scinde mes écrans, donc simplement vous prenez votre souris, vous appuyez sur comment on appelle ça, la barre de titre de votre fenêtre web, hein, peu importe, n'importe quelle application, et vous la glissez avec un clic tenu soit tout à gauche, soit tout à droite de votre écran, et là vous verrez un espèce de calque transparent qui apparaît, vous relâchez quand il apparaît et hop, votre fenêtre s'organise toute seule. Ça, c'est génial. Elle se centre parfaitement et vous laisse une partie à gauche, une partie à droite vierge et à vous de remettre ce que vous voulez. Pour info, pour scinder sur Chrome OS, il suffit avec votre souris de laisser poser le curseur sur le petit carré juste à gauche de la croix de votre fenêtre pour voir la possibilité de diviser en deux son écran, de faire une partie partielle assez large, donc deux tiers, un tiers, plein écran ou encore un système de PIP, un picture in picture, ils appellent ça superposé, je crois, pour avoir la fenêtre toujours mise en avant. Bon, bah, bref, on s'est scindé en deux son écran, c'est génial, j'adore, super. Mais avant, c'était un peu compliqué, il fallait aller chercher la fenêtre que vous voulez mettre sur la droite ou sur la gauche, sur la partie vide. Ça, c'était compliqué parce qu'il fallait faire un swipe avec les doigts, il fallait dire bah tiens, je veux cette fenêtre là, je la veux là. Bref, pas du tout intuitif. Avec la version 124 de Chrome OS, quand tu scindes ton écran en deux, enfin ou en deux tiers, un tiers, peu importe, maintenant tu as une visualisation de toutes les fenêtres ouvertes sur le même bureau virtuel et tu as juste à cliquer sur celui que tu veux afficher et il va s'adapter automatiquement en moins d'une seconde, c'était tellement normal que je comprends pas pourquoi ça n'existait pas avant. Avant, on satisfaisait du moins pire. Bah là, franchement, on est allé vraiment loin. Est-ce que ça, tu l'as vu arriver, Amandine, le système de scinder en deux et puis le fait de pouvoir sélectionner automatiquement une fenêtre ouverte en arrière-plan?
Alors non, celle-là, tu me la prends, effectivement, Nicolas. Je l'avais pas encore. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, je suis sur double écran. Donc, du coup, je me pose moins le souci de scinder. Mais comme je vais prendre les transports demain, je vais essayer dans le TGV.
Alors, si tu pestes, tu oublies de dire mon nom ou le CKB chaud. Hein, oh, mais il dit des conneries.
Je le ferai tout de suite.
C'est top. Franchement, c'est génial. Entre les bureaux virtuels plus les écrans splittés en deux, tu te retrouves avec 175 fenêtres ouvertes sur tes 16 bureaux. Après, il faut juste se souvenir où tu as mis quoi. Mais tu vas voir... question d'habitude, mais moi j'adore. Une autre chose hyper intéressante qui va plaire à plus de personnes qu'on ne pourrait l'imaginer, Google a donné la possibilité de mieux dimensionner le curseur de la souris. Alors, ceux qui regardent mon ordinateur, généralement, ils croient que je fais exprès de dimensionner mon écran le plus petit possible, avec des tout petits caractères, parce que j'aime bien avoir plein de choses décrites sur mon écran. Donc là, j'ai la définition la plus large de mon ordi, donc on doit être en 1900 par je sais pas combien, donc tout est petit. Et mon curseur, il est encore plus petit, à tel point que dans les systèmes d'accessibilité, moi, je suis allé rajouter un petit halo. Tu peux, sur Chrome OS, rajouter un petit halo rouge, je crois qu'il n'y a que rouge d'ailleurs, autour de la souris pour la retrouver, parce qu'elle est tellement petite, des fois, je la confonds avec les caractères. Donc avec le petit halo rouge, dès que je touche mon trackpad ou ma souris Bluetooth, tac, il apparaît, je sais où est mon curseur. Donc on peut faire tout petit avec un truc entouré. Et aujourd'hui, Google est allé dans l'autre sens en se disant qu'il fallait permettre de grandir le plus possible le curseur de sa souris, de son trackpad, pour qu'il soit vu par tout le monde. Et cette fonctionnalité, moi, je la trouve hyper intéressante, parce qu'évidemment, elle va être dédiée aux personnes avec un déficient visuel. Ben, c'est important, ils doivent pouvoir utiliser l'ordinateur au même titre que tout le monde. Ça devient un outil obligatoire, hein. L'ordinateur, ce n'est plus un gadget, hein. c'est un outil. C'est hyper utile pour, par exemple, les enseignants. Tu veux, à contrario de moi qui fait tout petit pour que personne ne voit, et moi-même non plus, mais les enseignants, eux, quand ils montrent quelque chose via un vidéoprojecteur, j'ai pris 80 ans d'un coup, hein. Un vidéoprojecteur, je sais, avant il y avait des polycopiers, alors attends, et avec la souris, donc ils montrent directement l'élément sur leur écran, et donc il faut que le curseur soit visible. Alors on peut changer la couleur, on peut changer la taille, on peut aller très très haut évidemment, et puis c'est aussi adapté dans les visioconférences. Quand tu fais une démonstration en live, c'est toujours galère quand le formateur te dit « Alors vous voyez là ?» Non, je vois pas, c'est où là ? C'est comme dans la voiture quand ton copilote il dit « Tourne là, tourne là !» Tourne là, oui, mais où ? À droite ou à gauche ? Et ben maintenant, avec ta souris qui est plus grosse, ton curseur qui est plus gros, on n'a plus besoin de dire. Là, les gens vont voir directement et de manière vraiment hyper très, très visible en tout cas. Je sais pas toi si t'es adepte des tout petits curseurs ou des curseurs plus larges.
Ben non, par défaut, justement, comme pour les formations, je le mets gros pour dire « vous voyez là ». Du coup, dans la vie de tous les jours, je le laisse gros aussi.
Écoute, c'est parfait, parce que au moins tu le perds pas. Je vais revenir un petit coup dans le chat. Hervé nous dit qu'il utilise beaucoup depuis plusieurs mois les bureaux virtuels. Félicitations, hein, c'est un pas à faire. Une fois qu'on l'a fait, on a du mal à s'en passer. Il a un Asus, un Asus CM1402. Alors je les connais pas tous, mais j'irai jeter un œil. Hein. Si c'est un bon produit, pourquoi pas aller voir Asus. Hervé, je ne connaissais le système de scinder l'écran. Hervé, teste, tu vas voir, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Après, c'est une question d'habitude, mais ça t'évite de switcher d'une fenêtre à une autre en plein écran. Quand tu veux faire un copier-coller, typiquement, c'est toujours mieux d'avoir les deux face à face. Quand tu veux copier un texte dans un mail, quand tu veux plagier quelque chose, c'est vraiment génial. Ça va beaucoup plus vite et ça te permet de garder un œil sur les deux systèmes. Alors moi, ça me vient des jeux vidéo à l'époque où on pouvait scinder en deux sa console pour jouer à deux sur la même console. C'était vieux, mais ça marche toujours, hein, ça existe toujours. Et Mathieu nous dit les écrans scindés, c'est vraiment top. Je suis content que tout le monde aime ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, donc j'en suis quand même content. Alors, il y a Miguel qui nous dit « Je suis peut-être de l'ancienne école, mais mon Chromebook est tactile. Je ne touche jamais l'écran. J'utilise exclusivement la souris. » Oh, tiens, c'est étonnant. Essaye. Si tu as un smartphone, normalement, les réflexes sont exactement les mêmes. Et les gestuels également, quand tu veux passer à gauche, à droite pour changer de menu. Après, c'est une habitude, évidemment. Et si tu n'en as pas besoin, ne change pas tes habitudes. Si tu ressens un besoin d'aller chercher un petit peu la nouveauté, n'hésite pas. Swipe, glisse, monte, descend. Et tu vas voir, c'est hyper intéressant. Moi, je clique même sur les liens avec mon doigt, des fois, donc bizarrement. Ou les boutons sur les sites web. Je clique sur le bouton avec mon doigt. Et je trouve ça génial. On continue sur le truc. Chrome OS 124, une autre évolution. Alors celle-là, vous n'allez pas forcément la voir directement, parce que il faut brancher une webcam externe compatible. Alors moi, en l'occurrence, j'ai une Logitech, je ne sais pas quel nom, mais elle est compatible. En plus, la fonctionnalité se cache sous un flag expérimental. Tu sais, c'est les trucs, tu vas sur chrome://flag, et là, tu as une multitude de fonctionnalités. Alors attention, ne le faites pas forcément si vous n'êtes pas à l'aise avec les trucs qui bugs. Hein. On l'a vu tout à l'heure, Amandine, avant le démarrage pour lancer l'enregistrement, en fait, tout laguait et c'était grâce à moi. Hein. C'était pas à cause, hein, grâce à moi. Parce que je teste plein de trucs et évidemment, plus rien ne fonctionnait. Et bien là, Google a rajouté un truc qui est super sympa qui s'appelle Zoom Super Res qui te permet, depuis l'application Caméra, je ne sais pas si tu utilises de temps en temps cette application, donc elle est préinstallée hein, dans le launcher, dans le lanceur d'application, tu tapes Caméra tout simplement et tu as accès à ta webcam. Alors tu peux te filmer en vidéo, c'est cool, tu peux, avec cette application, tu peux scanner un QR code, tu peux scanner un document, génial ce truc-là, tu as directement dans ton appareil. Et du coup, tu as dans l'application maintenant, tu as Zoom Super Res qui te permet de zoomer via ta webcam directement sur le personnage ou sur quelque chose que tu as envie de voir. Tu peux déplacer ta caméra, donc pas physiquement, hein, elle va aller regarder plus à droite, plus à gauche, monter, descendre. Je trouve ça génial, surtout si ta caméra en plus est capable de te suivre. On imagine que dans quelques temps, elle va le faire automatiquement. J'imagine que tu utilises beaucoup ta webcam en formation distancielle. Est-ce que c'est y a que moi qui adore ça ou c'est une fonctionnalité qui peut t'apporter du confort lors de tes différentes sessions?
Non, je pense que ça peut être vraiment un vrai plus pour... Alors, apporter un confort, je sais pas. Je dirais plutôt apporter un plus et effectivement éviter le côté statique, là comme là. Voilà, on bouge pas, on est toujours au centre de l'écran. Et c'est ça. Apporter un petit peu d'action, il faut le dire vite, mais un peu de mouvement, ça peut être pas mal, oui.
Ouais, ça peut être sympa. Et puis le zoom, il peut être intéressant quand tu veux faire le point sur quelque chose en particulier, pas forcément sur nous, formateurs, mais peut-être sur un document, justement, si jamais tu as besoin d'aller plus loin et de montrer quelque chose de plus précis. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment intéressant. Après, l'utiliser au quotidien, moi, perso, je pense pas, mais je trouve ça bien que ça arrive dans Chrome OS et par la suite, comme sur Windows, où le suivi des visages, ça peut être intéressant également si ça arrive également sur Chrome OS. Dans quelques temps, j'imagine que s'ils ont fait ça, c'est pas pour en rester au niveau du on va juste zoomer ou dézoomer. Hein. Je pense qu'ils vont aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une autre fonctionnalité, puis après je vais te laisser la voix, Amandine, hein, parce que sinon je vais encore me faire disputer. Une autre fonctionnalité que j'ai beaucoup appréciée qui est le FastPair HID. Pardon. Cette fonctionnalité permet tout simplement d'appareiller n'importe quel appareil Bluetooth, enfin une souris Bluetooth directement. Tu connais peut-être, tu as peut-être utilisé le FastPair, tu sais, avec une oreille, un casque Bluetooth ou des choses comme ça. Quand tu approches ton appareil compatible, dont ton smartphone ou ton ordinateur, il est automatiquement détecté. Tu as une petite notification qui dit « Hey, j'ai découvert un Pixel Buds Pro ou j'ai découvert tel appareil. Est-ce que tu veux le connecter ?» Tu as juste à cliquer sur « Oui ». Tu n'as rien fait. Tu sais, tu n'as pas lancé la manipulation d'appairage où il faut ouvrir le truc et en plus... tous sont différents, ouvrir le truc, appuyer 10 à 15 secondes sur le bouton pour qu'il se mette à clignoter bleu, violet, jaune, rouge, et puis ensuite aller dans Bluetooth, chercher l'appareil, connecter dessus, bref, une galère. Avec le FastPair, on a la solution hyper intuitive. Alors ça vient évidemment, c'est une copie intégrale de ce que fait Apple, et tant mieux, hein, copier les bonnes choses, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc c'était fonctionné sur les casques, et avec le FastPair HID, c'est une chose hyper intéressante, c'est que ça va être fait également avec les devices externes, type souris ou clavier. Donc dès qu'il va détecter souris ou clavier, il va te faire sa petite notification et il va te dire « Hey, est-ce que tu veux être raccordé automatiquement ?» en un clic. Moi, je trouve ça génial. Effectivement, on va peut-être pas s'en servir tous les jours, quoique, mais le fait de pas avoir besoin de s'ennuyer dans les paramètres, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si t'as pareil souvent des produits Bluetooth à ton Chromebook, mais je trouve ça bien. Je sais pas toi, en tout cas.
Alors souvent non, effectivement, c'est pas quelque chose dont on se sert tous les jours, mais oui, c'est, je trouve ça pratique quand on change ou si ça m'arrive effectivement, je suis la première à dire ah j'ai oublié ma souris, est-ce que quelqu'un a une souris? Non mais bon, je suis la reine des gaffeuses aussi, hein. Personne n'est parfait, donc ouais effectivement ce module là ça peut être sympa, pas passer 30 ans à réintégrer quelque chose, à dire comme on s'en sert pas tous les jours, dire mince comment j'ai fait la dernière fois, voilà, là au moins ouais, le problème il est.
Ouais, effectivement, c'est et puis tous les appareils sont pas identiques au niveau de l'appairage et c'est compliqué. Enfin, des fois, c'est vraiment embêtant. Alors, il y a quelques autres évolutions dans Chrome OS 124, mais j'ai dépassé mon temps de parole, comme diraient certains candidats. Du coup, je vous invite à aller sur le site web. Il y a un grand absent sur Chrome OS 124. C'est certains l'attendent avec impatience. C'est le navigateur Chrome Lacrosse, donc une version complètement mise à part de Chrome OS pour avoir des mises à jour complètement différentes. Mais il faudrait un épisode entier pour parler de Lacrosse, donc allez voir dans les notes de l'émission, il y a un lien qui pointe dessus, quelque chose d'hyper intéressant. Je sais pas, si là dans tout ce que j'ai listé, Amandine, est-ce qu'il y a une fonctionnalité, s'il n'y en a pas, tant pis, hein, qui est pour toi un must-have, quelque chose qu'il fallait absolument avoir avant cette version Chrome OS 124 et que tu ne pourras plus jamais t'en passer maintenant que je te l'ai annoncé ou que je te l'ai mis en avant?
Eh bien, écoute, même si j'utilisais sans trop l'utiliser les bureaux virtuels, ouais, je vais garder les bureaux virtuels, vraiment.
Bah écoute, bah a priori, ça plaît à beaucoup de monde, donc c'est un bon choix. Je suis d'accord avec toi. Là, je suis sur un bureau virtuel que j'ai appelé Stream. Hein, donc, tu vois, avec d'un côté le conducteur et de l'autre côté toi et moi et puis tous nos auditeurs qui échangent avec nous. Donc, n'hésitez pas. Là, on est passé à 30 minutes. Donc, si jamais vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore mis des petits pouces en l'air sur la vidéo ou partagé le lien, n'hésitez pas à le faire. Ça nous fait plaisir. Ça fait remonter la vidéo dans. Bah, ça ne fait pas remonter la vidéo vraiment, mais en tout cas, les gens qui tombent dessus par hasard se disent tiens, dis donc, il y a quand même pas mal de monde qui like, peut-être que c'est intéressant d'aller y jeter un œil, et ils vont rester, ils vont faire comme vous, ils vont partager, ils vont faire un like, ils vont le donner à tous leurs amis, et puis pourquoi pas nous soutenir via patreon.com/mychromebook, pour quelques euros par mois, ça nous aide, ça nous soutient réellement, ne serait-ce que pour utiliser l'application qu'on utilise aujourd'hui, Amandine, parce qu'elle a un petit coût quand même si c'est pas la ruine, mais c'est grâce à nos patriotes qu'on peut aujourd'hui enregistrer ensemble, en distanciel et sur tous les réseaux sociaux en même temps. Voilà, j'ai assez parlé, Amandine, et c'est à toi. Je te laisse la main parce que, en fait, on te connaît, je ne sais pas si tout le monde te connaît encore, et c'est bien dommage, on devrait tous te connaître, mais tu fais de la formation autour des outils de la suite bureautique Google Workspace, et évidemment, à ce titre-là, tu as plein de tips, tu as plein de petites astuces que tu distilles, j'imagine, dans toutes tes formations et à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Et du coup, tu m'as dit que tu voulais en amener quelques-unes, alors pas toutes parce que tu en as des dizaines et des dizaines, j'imagine, mais tu en as sélectionné quelques-unes pour faire briller les yeux de tous nos auditeurs. Alors, je te laisse la boire, dis-leur tout. Celle que tu as sélectionnée pour eux ce soir.
Oui, alors c'est ça, ce soir. Enfin, j'ai un peu bossé, j'en ai sélectionné vraiment quelques-unes parce qu'effectivement, on pourrait y passer beaucoup de temps. Et puis même quelques minutes là avant l'enregistrement, je me disais, oh, on pourrait faire une session sur ça, une session sur ça. Enfin voilà, on pourrait passer. Et puis voilà. Je suis assez bavarde aussi et j'aime beaucoup cet univers-là. Je suis une grande passionnée avant d'être une formatrice. J'étais vraiment je suis toujours une grande utilisatrice et surtout une grande passionnée. Donc oui, j'en ai sélectionné quelques-uns, vraiment voilà, des tips pour vous faciliter, on va dire, le quotidien pour tous les utilisateurs. Et puis voilà, pour donner envie à ceux qui ne sont pas encore passés sur la solution Google d'aller faire un tour parce que c'est vraiment magique. Alors ce soir, je voulais vous parler, je vais le faire dans l'ordre de la liste comme je l'ai fait tout à l'heure. Le mode sombre qui fait son apparition dans Google Drive, donc ça c'est chouette. Moi, j'utilise toutes les applications, on va dire, sur mon smartphone ou sur mon Chromebook, tout ce que je peux utiliser en mode sombre, je passe dessus. Ça c'est vraiment chouette. J'ai fait un article là-dessus il y a pas longtemps, justement, qui disait c'est pour le confort visuel, c'est vraiment plus sympa que le blanc de passer sur du mode sombre. Apparemment, ça fait gagner de la batterie aussi. Alors moi, je suis une grosse utilisatrice, je passe énormément d'heures. Voilà, tout ça. Il faut pas passer trop de temps sur les écrans. Bon, c'est pas moi. C'est pas nous, c'est dommage. Mais voilà, mais oui, apparemment, ça permet d'économiser de la batterie. Donc, pourquoi pas, si on peut le recharger moins souvent, c'est chouette aussi. Donc, dans Google Drive, ça se trouve dans les paramètres. Maintenant, voilà, on peut choisir effectivement de s'adapter. Donc, clair, sombre, pour ceux voilà, qui n'aiment pas, qui ont envie de découvrir. Effectivement, ça peut s'adapter aussi au thème général de l'appareil. Donc, ça, c'est bien. J'ai découvert aussi, moi aussi, j'ai bossé un petit peu ce week-end sur tout ce qui est extension. Module complémentaire, j'ai regardé un peu ce qui se passait et j'ai découvert que Docs aussi, donc le traitement de texte, il y avait une extension. Alors là, c'est pas natif, hein, en tout cas pas encore maintenant. Donc on a une extension qui est possible pour avoir le mode sombre. J'ai testé, je trouve ça sympa. Effectivement, alors ça peut être un peu déroutant au début parce qu'on a l'habitude de la page blanche. Mais voilà, c'est moi qui l'envoie, je n'aurai plus jamais l'angoisse de la page blanche. Maintenant, j'ai la page noire.
Écoute,
donc, ouais. Voilà,
donc ouais, c'est pas. dans les modules complémentaires, donc dans extension. Voilà. Tu as le nom de l'extension, tu l'as en tête ou je vais la chercher plus tard et puis on la mettra dans
oui,
les...
Non, je crois qu'il faudra la chercher, mais il me semble que ça doit être mode sombre. Ou, je ne sais plus exactement, j'ai un peu découvert ça au fur et à mesure de mes lectures. Donc mais vraiment, enfin, pour ceux qui aiment le mode sombre sur leurs applications, voilà, c'est possible sur Drive, sur Docs maintenant aussi. Donc chouette, vraiment sympa.
Ouais, et sur Chrome OS, comme tu le disais tout à l'heure, vu que ça peut s'adapter à ton à l'affichage de ton ordinateur, sur Chrome OS, en fait, dans le menu d'état, menu des paramètres rapides, pardon, quand tu as le curseur d'augmentation de luminosité, tu as une petite flèche maintenant qui pointe vers la droite. Quand tu cliques dessus, tu as la possibilité d'avoir éclairage nocturne et thème sombre. Et si tu actives thème sombre et que sur Google, enfin les outils Google, la suite Workspace, pardon, et qui est le système de thème sombre qui est activé, il va automatiquement se mettre en fonction de ça. Donc si tu mets en thème sombre à un moment donné de la journée parce que tu as un peu mal aux yeux, ça tire, ben automatiquement le reste va passer. Moi je trouve ça vraiment top. Je l'utilise, alors ça dépend la période de journée. Il y a des fois où je vais le mettre et d'autres fois où je vais pas le mettre parce que, oh, je dois être bizarre, hein. Parce qu'en fait le thème sombre c'est un fond noir et une écriture blanche, et bizarrement ça, alors, parce que peut-être que mes yeux sont moins habitués, mais bizarrement ça, quand je viens à scroller trop longtemps ou que je lis trop profondément, je vais dire, un texte, après je vois tout plein de... je peux fermer les yeux, je vois des petites lignes blanches qui apparaissent dans... je sais pas si ça fait qu'à moi, et du coup ça me fait bizarre pendant un petit temps, le temps d'adaptation que j'ai de passer d'un thème sombre à un thème classique, et des fois bah, je passe de l'écran de mon ordinateur à la télévision et je vois plein de lignes et c'est compliqué. Donc faut pas faire ça, attention à ne pas laisser entre toutes les mains, visiblement ça peut être dangereux. Mais j'adore, le thème sombre, c'est quelque chose que j'apprécie énormément.
Ouais.
Du coup, tu avais d'autres, ouais, t'en as plein, hein, tu t'en as sélectionné quelques-unes. Tu voulais nous parler d'agenda. C'est Google Calendar qui est, à mon sens, génial sur Chrome OS. En plus, il y a une évolution qui arrive, s'il n'est pas déjà arrivé, où maintenant, tous nos agendas peuvent être réunis directement. Quand tu cliques sur la date en bas à droite de ton écran, quand tu cliques dessus, tu as l'agenda qui apparaît. Et quand tu cliques dessus, quand tu as une petite bulle d'information, si tu as trois agendas, genre famille, amis, travail, ben, et que tu as un événement sur cette journée-là, les trois sont bien segmentés, 4, 5, 6, hein, je crois qu'on peut aller jusqu'à 6, ils sont bien segmentés avec des petites pastilles de couleurs pour définir en fonction de la couleur que tu as choisie dans ton agenda. Donc Google Agenda, qu'est-ce qui est arrivé dans ce super produit que j'utilise tout le temps et de plus en plus?
Oui, alors dans Agenda, c'est vrai que bah, maintenant, en fait, ça fait déjà un petit bout de temps, mais pas trop, parce que ça évolue pas mal, en fait, ces derniers temps. Et en fait, task... voilà, les tâches, en fait, ce qu'on appelle task, on pouvait les retrouver dans l'agenda. Et maintenant, en fait, on a un menu, un petit bouton en haut où on peut switcher, en fait, sur notre onglet d'agenda, sur le anciennement Taskboard, pardon. Et Taskboard, moi, c'était une application que j'aimais beaucoup avant parce que, justement, mes tâches, au lieu de les avoir juste sur mon côté des emails, pour ceux qui utilisent, voilà, et ça faisait qu'une liste, on était obligé d'aller dans le menu déroulant pour aller voir nos différentes listes de tâches. Là, en fait, voilà, ce tableau de bord, ça permet d'avoir, en fait, sous forme un peu de Kanban, toutes nos listes, en fait, sur un même écran, sans avoir à aller toujours dans le menu déroulant, aller les chercher. Donc ça, c'est une belle évolution et je crois qu'il y en a d'autres à venir, justement, sur Task. Donc chouette, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien, ça fait partie vraiment de mes tips. Voilà, j'en parle beaucoup en formation, je passe beaucoup de temps, même si ça a l'air d'être tout petit et de pas grand chose, mais en fait dans l'organisation du travail, non mais c'est vrai, ça fait partie des choses qu'on met de côté, et quand on a besoin de s'organiser un peu, c'est vraiment une application qui est surprenante quand on passe un petit peu de temps dessus. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire sur l'agenda, de faire attention à...
C'est ça, tu nous en avais parlé la dernière fois déjà, c'était Google Keep, je crois, que tu avais mis en avant dans mes souvenirs,
voilà,
et Google
voilà.
Task aussi. Donc forcément, on le voit, t'as un coup de cœur, je crois que c'était d'ailleurs un de tes coups de cœur, et t'as un coup de cœur sur le...
Oui.
Bah écoute, c'est top, en tout cas ça marche très bien, si vous l'utilisez pas, allez y jeter un œil, hein. Franchement c'est top, pour organiser ces... Tu sais, c'est les moi, je l'utilise quand il n'y a pas de timing particulier. C'est plus comme un post-it ou comme ou je l'utilise quand j'en ai besoin ou je le mets et des fois c'est juste des notes sans rien de particulier. Je vais me réveiller la nuit par exemple, ça m'arrive. J'ai une idée. Avant, je la perdais l'idée. Tu sais, je me la répétais 10 fois avant de me réendormir. Puis le matin, de toute façon, je l'avais zappé. Maintenant, je me réveille et sur mon téléphone, en fait, j'ai mis Google Task en widget sur mon téléphone et je mets dessus. Puis je rajoute la tâche. C'est pas vraiment une tâche, mais c'est dedans. C'est un peu mon deuxième cerveau. Je le range et comme ça, quand j'en ai besoin, je vais fouiller dedans. Et qu'on le retrouve dans Agenda, qu'on le retrouve partout maintenant, je trouve ça vraiment génial et c'est vraiment hyper pratique. D'ailleurs, ouais, dans Gmail, on le retrouve, hein, je crois, Task. Oui, si on le retrouve.
Oui, sur le côté, généralement, en général, voilà, oui, c'est comme ça que je le présente. Moi, c'est sur le côté, ça fait un petit bandeau en plus. Alors, ça, comme ça, comme je dis, comme on peut effectivement lier des emails aux tâches, enfin, voilà, c'est pareil, on pourrait faire une session complète sur Task, hein, si on me lâche, là, ça y est, je suis partie. Mais oui, il y a le petit bandeau qui est bien pratique, et puis effectivement, d'avoir cette vision quand on commence à avoir, voilà, à s'organiser en liste, etc., d'avoir cette vision un peu globale. C'est intéressant, je trouve. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup utilisé et c'est vrai que Taskboard avait un peu disparu. Enfin, je sais pas, je l'avais un peu perdu de vue. Et là, de le retrouver, voilà, couplé à l'agenda, parce que les tâches, on peut les retrouver dans notre agenda. Je dis pourquoi pas, vraiment.
Ouais, top. Et d'ailleurs, on l'utilise donc dans Gmail, comme je le disais, c'est possible. Et Gmail, lui aussi, a intégré une nouvelle fonctionnalité hyper intéressante. Je crois qu'on avait déjà un petit peu abordé le sujet, mais c'est super intéressant d'en reparler dans tes astuces, Amandine. Qu'est-ce que Gmail nous propose ?
Oui, alors Gmail nous propose, et c'est vrai que c'est un peu caché comme ça, il faut aller le chercher. C'est pour ça que j'aime bien aussi en parler quand c'est un peu caché, qu'on n'a pas l'idée d'aller cliquer sur le petit bouton. Quand on rédige un mail, en fait, on a un module de public postage qui est caché dans notre rédaction de mail. C'est-à-dire que voilà, juste à côté, vous pouvez aller voir quand vous faites voilà nouveau mail, à droite de la barre des expéditeurs, et ben vous avez deux petites silhouettes qui apparaissent. Ben ça, c'est le module de public postage qui est intégré directement dans Gmail. Donc, ça, c'est chouette. Pour peu qu'on ait une base de contact, effectivement, dans un Google Sheets, on peut aller très facilement aller faire du public postage, d'emailing. Pourquoi pas, voilà, quand on a une newsletter ou moi, quand je fais des invitations un peu. Enfin, voilà, ça m'est arrivé de le faire, de le tester pour un déjeuner de travail, des choses comme ça. C'est hyper intéressant.
Ouais. Et alors, je ne sais pas si ça fonctionne avec, mais maintenant, je crois que c'est Cyril d'ailleurs, hein, dans un de nos épisodes passés, donc allez fouiller nos épisodes, il y a plein de petites pépites, qui nous expliquait qu'on a maintenant dans Gmail la possibilité donc, de faire du public postage, comme tu le dis bien, et qui utilise l'interface de Google Sheets pour créer un template, comment on appelle ça, une mise en forme particulière, juste avec des glissés-déposés, des modules que tu viens déposer pour avoir une interface jolie finalement. Ton public postage plus ça, je pense que ça fait un super bon mélange pour avoir un truc de hyper qualité. Donc je trouve ça top en tout cas. Gmail s'améliore de jour en jour et on se demande comment s'en passer. Pour te dire, moi j'ai pas une adresse Gmail, mais mon compte est géré par Google, le compte de My Chromebook est géré par Google. Alors, je l'ai fait au départ juste pour pouvoir utiliser Gmail à son plein potentiel. Parce qu'à la base, je gérais mon adresse mail de mon côté, mais j'ai tout migré sur Google pour pouvoir gérer justement le public postage, pour pouvoir gérer tous mes agendas et compagnie. Je trouve ça vraiment génial. Une autre fonctionnalité que j'utilise depuis toujours, mais bizarrement, je crois que j'étais le seul à le connaître. Joie, quand j'ai vu que tu l'avais rajouté, on peut sur son smartphone faire des trucs exceptionnels. Mais comment ça se fait? Parce que moi, je le savais, ça. Bon, bah, tout le monde sait que je sais plein de trucs que je garde pour moi sauvagement. Mais toi, tu le mets dans les astuces et les gens ne le connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que cette super solution qui a apporté tout le monde et qui est gratuite qui plus est, me semble-t-il?
Oui, alors depuis leur smartphone, je l'annonce, on peut scanner et enregistrer un document. Je m'explique. On a Google Drive, bien entendu, tous installés sur notre smartphone, ou pas encore, mais ça va venir après, voilà, après l'explication, en toute modestie, bien entendu. Voilà. Donc, en fait, depuis l'application Google Drive, donc qui est l'espace de stockage de documents, mais pas que, mais là, on va parler du stockage, et ben, on peut aller scanner un document, c'est-à-dire que j'ai reçu un courrier. Je veux avoir la copie numérique, j'ai pas forcément un scanner à portée de main. je vais pouvoir aller effectivement depuis mon application scanner le document et lui dire où je veux l'enregistrer. Là, pour le coup, si j'ai envie de faire un peu de classement, je peux aller choisir mon dossier. J'en parle, même si effectivement on n'est pas obligé. Mais voilà, on peut aller le scanner, l'enregistrer, aller en 3 clics depuis son smartphone, et on a une version numérique qui est en plus, je trouve, de très bonne qualité pour avoir testé d'autres applications gratuites. Qui était en libre service. Ouais, je trouve ça super intéressant.
Ouais, et ce qui est génial, moi je l'ai vu évoluer parce que je l'utilise depuis je sais même pas combien d'années, mais très 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 loin dans le temps. Avant, elle était cachée, c'était une fonctionnalité, il fallait savoir qu'elle existe. Maintenant, elle est quand même vachement visible. Quand tu appuies sur le petit plus, tu peux faire, oui. Je crois que c'est, on appelait ça numériser, hein, je crois, parce que, enfin bref, numériser ou scanner. Et ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ils ont fait évoluer cette fonctionnalité. Et comme Google ne sait pas communiquer sur ses produits, personne ne le sait que ça existe. Maintenant, ça détecte les coins de ton image. Ce que ça ne faisait pas avant. Avant, ça prenait la photo, il fallait que tu recadres toi-même ton truc. C'était horrible, mais c'était pratique, mais horrible. Aujourd'hui, ça recadre ton image, ça va même rehausser les couleurs pour que le texte soit plus lisible. Moi, je trouve ça vraiment génial et j'utilise énormément. Quand j'ai, je sais pas, tu as une facture ou je sais pas quoi, ceux qui aiment ça, plutôt que de les garder au format papier, puisque finalement, ça sert à rien. Si on peut le réimprimer, on n'a pas besoin forcément de l'original. Je la scanne. Et ça va dans mon drive, je la renomme juste correctement, parce que j'ai juste à renommer, et puis quand j'en ai besoin, je tape facture voiture, et hop, il me sort toutes les factures voiture, j'ai plus qu'à lister, et je les range par date, comme ça je sais, ah oui, c'était à peu près en 2014, et c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment pratique, il y a des fonctionnalités qui sont ouf, et celle-là, franchement, je comprends pas qu'on ne l'utilise pas encore, donc allez-y, super astuce, Amandine, merci, c'est top en tout cas, allez-y, si vous n'avez pas Google Drive, mais tout le monde l'a sur un Android, et si, tout le monde l'a sur Android, ceux qui sont sur iPhone, vous pouvez les télécharger. Il y a Grégory qui nous dit scan Google Drive, dispo également sur l'application Drive iOS. Écoute, bravo Grégory de nous éclairer, d'éclairer nos lanternes à ce sujet-là. Une autre fonctionnalité que tu apprécies particulièrement, que j'utilise énormément aussi, forcément, mais on revient plus dans la suite Workspace, sur Google Doc, tu ne tapes plus ton texte, c'est ça ? Tu lui parles ?
Oui, je parle à Google Doc. Grâce à mon micro, en fait, il existe. C'est dans les outils. Voilà, c'est dans le menu outils. Effectivement, je voulais en parler ce soir parce que je trouve ça sympa et puis ça va faire le lien avec ce que je vais dire après aussi. Mais oui, j'utilise mon micro plutôt que de taper au clavier et de martyriser mon clavier à longueur de journée. Je dicte. Par exemple, si tu as une idée la nuit, tu pourrais faire ça aussi. Dicter à Google Docs. Et puis, encore plus sympa, et c'est ce que j'ai découvert aussi un peu dans mes dernières lectures, c'est que voilà, là encore une extension ChatGPT qui va permettre du coup, si on a effectivement fait un grand texte, qu'on a plusieurs pages d'un document et qu'on a besoin de faire une synthèse, un compte rendu, etc. Et ben cette extension-là, elle va nous permettre. Voilà, extension, ça ne veut pas sortir ce soir. Elle va permettre de faire des synthèses, des comptes rendus, et je trouve ça, là encore, on gagne en fluidité, et moi, tout ce qui peut me faire gagner en fluidité, en temps, c'est extraordinaire.
Ouais, et moi, je l'utilise pas mal quand j'ai des idées sur mon Chromebook ou j'ai la flemme de taper. Alors, j'ai un problème, je tape un peu n'importe comment, les lettres, elles arrivent quand elles arrivent. Le mot, t'as toutes les lettres, t'as plus qu'à faire le tri pour faire un mot. Bon, c'est bon, tu vas pas m'embêter avec ça non plus. Du coup, j'utilise le raccourci sur Chrome OS, je crois que c'est CTRL S pour l'activer par défaut. Tu peux, attends, je le fais en live, c'est pas ça. Tu peux activer le micro par défaut avec le raccourci. Je retrouverai, j'ai perdu le raccourci, pourtant je le fais tout le temps. Bon, bref, je vais pas tout péter en live. Mais t'actives directement et c'est juste génial, tu lui parles, il prend en compte la ponctuation, je trouve ça génial, ce qui n'était pas forcément simple tout le temps. Et puis, quand tu viens ramener ChatGPT dedans, alors ça va être la même chose avec Gemini, je pense, d'après ce que j'ai compris, qui crée des synthèses ou qui te réécrit. Moi, j'utilise l'extension, alors c'est peut-être pas la même, mais j'utilise une extension ChatGPT sur Chrome OS, sur Google Docs, parce que en fait, je tape tout comme ça arrive. Donc j'ai plusieurs solutions, je peux utiliser l'extension Language Tool, donc l'extension Chrome qui vient me souligner en me disant oh, « t'as encore tapé n'importe quoi, c'est mieux de mettre le mot correctement », donc voilà, il me fait ça. Ou alors je dis simplement à ChatGPT de me réécrire sans faute et il me le réécrit automatiquement. C'est la même phrase, sauf qu'elle est compréhensible. Moi je trouve ça hyper intéressant et ça me fait gagner énormément de temps également. Quand on fait du contenu comme toi, bah, tu fais des présentations, donc forcément tu utilises, on va dire le gros mot, mais tu utilises PowerPoint, j'imagine, mais également la suite dans la suite. Ah bravo, bravo. Non, c'est vrai, ah, c'est cool. Bah, alors du coup, tu utilises son pendant chez Google, qui est Google Slide. Et sur Google Slide, il y a une évolution qui est arrivée, non, elle est déjà arrivée.
En train. Alors, je l'ai vérifié tout à l'heure, effectivement, pour pas vous dire de bêtises et pas qu'on se retrouve dans, bah oui, vous présentez des trucs, c'est pas ça arrive. Vraiment, ça arrive. Mais je me suis fait avoir à mon propre jeu, c'est-à-dire, je me dis, ouais, chouette. Et quand j'ai voulu regarder chez moi, en tout cas, ça y était pas. Mais oui, on va pouvoir enlever le fond des images. C'est-à-dire, voilà, on va avoir une voiture sur fond bleu. Eh bien, on va pouvoir enlever ce fond bleu pour pouvoir avoir que la voiture, effectivement, selon les présentations qu'on fait. Dans Slide, dans l'équivalent de PowerPoint, on peut se retrouver avec pouvoir retravailler les images. Et moi j'aime bien, je sais qu'il y a des solutions qui existent pour faire du contenu et des choses mises en page, voilà, dont on parlera pas ce soir parce que c'était pas le but, mais là effectivement dans Slide on arrive aussi à une maîtrise, on va dire, de la mise en page qui devient tout à fait sympa, très ludique. Voilà, il existe toujours des sites gratuits pour pouvoir enlever le fond des images, mais là que ça soit intégré à Slide, ça évite de jongler entre j'ai un onglet avec un site web ou je sais qu'il existait une extension aussi, mais voilà, là ça évite de trop jongler. Quand c'est mis en natif, moi j'aime bien aussi. Ça permet de, voilà, encore une fois, de gagner peut-être en rapidité, d'avoir moins d'onglets ouverts. Du coup, je trouve ça sympa. Non,
C'est top parce que oui, effectivement, j'utilise moi remove.bg ou Canva Pro pour enlever le fond d'écran, pour ensuite le coller dans Slide. Pff, quelle perte de temps. Effectivement, si c'est natif, c'est quand même beaucoup plus sympa, ça va plus vite. Et puis, ça évite qu'on ait envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc, Google a meilleur temps de nous l'offrir plutôt que de nous laisser aller voir Canva qui nous permet de faire des super présentations. Non, restez sur Google Slide, vous verrez, nos présentations, elles sont bien. Et en plus, on peut enlever le fond d'une image, donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors, je crois que Cyril nous en avait parlé à un moment donné de cette fonctionnalité qui allait arriver. Il avait, c'était un bad buzz, je crois, ou un coup de cœur, mais l'inverse du coup de cœur, je sais plus. Bref, et il nous disait que c'était peut-être uniquement pour les versions payantes de Google Workspace et pas les versions gratuites. À voir comment ça va arriver prochainement. J'aimerais que ça soit pour tout le monde parce que ce serait génial. Au moins qu'on ait un certain nombre d'usages et puis que par la suite, ils nous disent bon, maintenant, je vous ai montré qu'on a des super outils. Si vous voulez continuer à les utiliser, et puis qui n'arrivent pas directement dans le cimetière de Google, venez nous donner 2-3 sous, histoire qu'on ne devienne pas pauvre, hein, puisque Google a besoin d'argent. En tout cas, une super solution. Et puis la dernière astuce que tu voulais nous donner, on redonne de la voix à tes astuces du coup, mais cette fois dans un autre outil de Google.
C'est ça, là c'était un peu aussi la session, c'est-à-dire se passer du clavier. J'ai regardé d'ailleurs rapidement pour le micro, c'est CTRL-MAJ-S.
Ah oui, contrôle Maj. J'avais oublié le Maj.
Pour ceux qui me connaissent, je suis pas une fan des raccourcis, mais je m'y mets aussi parce que c'est très sympa. Donc voilà, contrôle Maj S pour le micro dans Google Docs. Et donc du coup, pour finir sur note vocale, on va pas dire musicale, mais voilà presque. Je suis désolée d'annoncer à tous ceux qui utilisent Google Chat avec moi, c'est que les messages vocaux sont arrivés. Donc je suis désolée parce que vous allez en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je m'excuse à ceux qui sont présents ce soir et qui utilisent Google Chat. Si vous voulez me bloquer, je comprendrai, parce que moi je vais utiliser ça tout le temps.
Effectivement, ouais, c'est pratique parce que c'est plus rapide finalement que de taper du texte à rallonge en quelques secondes. Tu as expliqué correctement la chose ou pas, si c'est moi qui l'explique, et c'est quand même mieux que du texte. En plus, en voiture, c'est dangereux de taper du texte alors que de parler, c'est plus simple. Mais non, c'est génial par contre. Et j'ai vu que Google améliore au fur et à mesure tout ce qui est vocal. Là, je suis sur, j'ai un Pixel, un smartphone Pixel dans l'application Message, donc l'application de SMS, hein, pour faire simple, pour les plus vieux d'entre nous. Maintenant, tu peux faire des messages vocaux et leur donner un peu plus de beauté. En fait, tu vas lui envoyer. Donc déjà, l'interface est beaucoup plus jolie, très proche de celle de Apple, voire meilleure. Et elle vient s'agrémenter de petits emojis. Alors avec des petits yeux cœurs, avec des petits smileys, avec des petits machins. Et je trouve ça génial. Bon, ça sert strictement à rien, mais qu'est-ce que c'est bien. Et ben du coup, désolé aussi. Hein, j'ai déjà commencé, mais sur mon téléphone. Donc c'est en plus sur chat. Il y a Alain qui nous dit horreur ces messages vocaux. Ah bah oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit. Tu sais, dans la rue, je sais pas si t'as remarqué. Avant, on avait les yeux rivés sur notre écran. Maintenant, tout le monde a son téléphone. J'ai pas bien compris le concept, hein, mais son téléphone collé à l'oreille pour ouais, c'est ça. Mais un casque, un kit pied. Enfin, je sais pas, mais quelque chose. Pourquoi je dois entendre ta conversation? Mais tout le monde l'a comme ça. Et après, ils le regardent plus. Ils appuient sur un bouton parce qu'ils savent exactement. Ça tombe sous le pouce pour répondre. Bah, appelle-le en fait. Bon, bref. Donc, je comprends Alain, mais je suis désolé. Je fais partie de ceux qui envoient des messages vocaux à certaines personnes. Désolé. Il y a Grégory qui est pas fan non plus. Bah, dis donc, ça plaît pas. Peut-être que vous êtes comme nous, un peu trop âgé. Enfin, pas comme toi, Amandine, puisque toi, ça te plaît. Puis moi, je commence à venir. Du coup, on a peut-être encore un petit travail à faire sur nous-mêmes. Merci Amandine pour nous avoir choisi quelques astuces hyper intéressantes dans les fonctionnalités. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, hein, tu aurais pu rester quelques jours avec nous et nous en parler, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Comme ça, on a pour à peu près 10 ans d'astuces d'Amandine, tu vois. ça va, on a ce qu'il faut. Merci en tout cas d'avoir préparé tout ça et puis de nous avoir exposé à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous êtes encore là, ça fait combien? Ça fait pile une heure que vous êtes là. Laissez un pouce en l'air. Je vois que j'en ai que 13 alors qu'on est quoi, on est 30 aujourd'hui sur YouTube, plus ceux qui sont sur Facebook et compagnie. Laissez des petits pouces en l'air, ça nous fait toujours énormément plaisir. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet à ceux qui tombent par hasard sur le CKB Show, de voir que vous appréciez et du coup de se laisser tenter, de cliquer sur le bouton play et pourquoi pas partager à tous vos amis sur les différents réseaux sociaux, ça va leur faire plaisir. Et si vous avez appris des choses, je suis certain qu'eux aussi, parce que vous êtes les meilleurs des meilleurs, hein, forcément, vous êtes avec nous. Alors vos collègues, vos amis, eux, ils sont pas encore bons, allez-y, envoyez-leur en leur disant « Regarde, il y a l'astuce d'Amandine avec le micro sur Google Doc qui est top, tu devrais la tester ». Merci beaucoup. Alors on va continuer, on va finaliser, hein, cet épisode sur nos coups de cœur. Amandine, on a, c'est un rituel maintenant, on teste tellement de choses que des fois on oublie de dire aux gens qu'on a testé quelque chose, que ça nous a plu. Des fois c'est complètement anodin. La dernière fois on a parlé de coutellerie avec Olivier, hein, il aime les couteaux, il n'y a rien de tech, mais qu'est-ce que c'est génial, il a aimé. Et ben écoute, tant mieux, si ça lui a fait plaisir à lui, ça peut peut-être faire plaisir à des dizaines de milliers de personnes. Et ben nous aujourd'hui, ce soir en tout cas, on a deux coups de cœur. Alors je vais te laisser présenter le tien que je connaissais mais que je n'utilisais pas et je l'ai réinstallé dernièrement pour tester.
Oui, encore une fois, c'est un module complémentaire. Donc du coup, pour Docs, donc le traitement de texte, et pour Slide, donc les présentations, c'est des polices d'écriture différentes de ce qui est présent nativement. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, parce que mon accent anglais est épouvantable, mais voilà, je fais ce que la nature m'a donné. Donc c'est Extensive Fonts qui permet justement d'avoir accès. Je l'ai fait bien. Hein, d'avoir accès à des polices différentes. Et voilà, moi encore, j'aime bien, comme je disais, je me sers pas mal aussi des présentations pour faire des visuels. Donc, du coup, ça permet effectivement d'aller chercher d'autres choses. Voilà, ça, il faut être un peu curieux, il faut aller fouiller. Et effectivement, quand on aime créer des visuels, ça permet d'avoir accès à pas mal de typologies. Et on m'avait posé la question en formation de savoir si c'était possible d'avoir une typologie style un peu street art. Eh ben, elle existe.
Effectivement, donc, c'est génial. Ça te permet d'avoir des visuels différents, rien qu'avec une police de caractère, de changer du tout au tout une présentation qui était plutôt banale et qui devient exceptionnelle et qui attire le regard, l'œil sur un point bien précis dans ta présentation. Donc ouais, en plus c'est gratuit. Donc allez l'installer. Encore une fois, vous allez dans extensions, télécharger, je crois, un module complémentaire et télécharger module complémentaire. puis vous tapez, comme tu as dit, je vais pas le dire mieux que toi, donc Extensis Font, et vous tapez dessus, et puis pouf, ça s'installe, ça prend quelques secondes, et c'est vraiment top, hein, ça marche super bien pour les présentations, donc j'aime beaucoup, merci Amandine pour ce coup de cœur. Le mien, complètement rien à voir, totalement inutile, mais du coup hyper important de l'avoir dans sa trousse à outils. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait, je fais toujours des visuels pour présenter le podcast sur YouTube, donc hein, on appelle ça une vignette YouTube. Je suis nul en vignette YouTube, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, je prends. Si vous êtes mieux que moi, je prends même des conseils pour en faire des meilleurs. Mais des fois, j'aime bien mettre les visuels des personnes qui sont là sur le podcast qui enregistre, et sur celui-ci, Amandine, tu l'as vu, je ne sais pas si tu avais reconnu, mais j'ai pris ma tête et je l'ai mis dans cet outil et je lui ai dit vas-y, crée-moi un sticker. Et il m'a créé un sticker de moi mieux que moi. Donc j'étais content parce que pour une fois que je ressemblais à un acteur de cinéma des années 60, bah, franchement, on ne peut pas faire mieux que ça. Et j'ai fait la même chose pour toi. J'ai pris un screen horrible. Avec mon Chromebook, tu sais, tu peux screener. Donc j'ai encadré ta tête, je l'ai jeté dedans, j'ai dit vas-y, fais-moi. Et pouf, il m'a sorti un truc top. Je me suis dit bon, bah, au pire, personne ne reconnaîtra. Au mieux, ça fait plaisir. Bon, bah voilà. Et du coup, cette application, enfin, c'est une page web qui est complètement gratuite, hein, qui s'appelle Sticker Backer. Donc sticker STICK. Backer, BAKER.com. C'est totalement gratuit. Vous mettez, alors vous pouvez soit mettre un prompt, vous mettez je veux un cute dog ou un joli petit animal en train de jouer à l'ordinateur. Il va te créer un sticker autour de ça. Je trouve ça super génial pour agrémenter des présentations slides. Tu peux tout mettre. Par exemple, tu veux parler d'un raccourci clavier, tu peux lui demander de te générer un sticker clavier. L'avantage, c'est qu'il est que à toi. Personne n'a fait le même, puisque c'est une IA qui l'a généré aléatoirement et de façon tout cute, tout mignon. Donc ça te donne quelque chose de sympa, ou au contraire, tu peux mettre des choses horribles. Et puis, tu peux, en plus du prompt, y apporter une image et lui dire bah, tiens, moi je veux un homme, j'ai mis juste homme pour moi, tu vois, je suis allé loin, j'ai mis man, j'ai même pas mis homme, M-A-N. Et il m'a sorti un visuel de moi, et j'ai mis pour toi, je suis allé très loin, j'ai mis woman, ouais, j'ai plus long hein, du coup, et il m'a sorti ton visuel. Alors après, est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas? Ça, j'aurais peut-être dû le demander avant de le lancer. Mais voilà, j'ai fait ce visuel et j'ai trouvé ça génial. Et toute la semaine, enfin, toute la, ouais, ça fait une semaine que je joue avec. Tous mes amis y sont passés. Mon chien y est passé. Tout le monde y est passé. Hein, donc, et je les ai envoyés à tout le monde. Hey, je regarde, c'est toi. Et voilà, bon, bref. Il y en a qui se sont reconnus et d'autres pas. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça trouvait ça bien?
Oui, moi, j'ai trouvé ça bien.
Merci. C'est top. Donc sticker backer, baker.com. Le lien, il est dans les notes de l'émission pour ceux qui nous suivent. Allez, je vais vous le donner tout de suite parce que bah, tant qu'à faire, vous êtes avec nous jusque là ce soir, donc c'est très simple. Il est là, le voici. Il est dans les notes de l'émission. Il est dans le chat maintenant. Écoute, Amandine, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. C'était génial. C'était encore une fois top. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Amandine, si on a envie d'échanger avec toi, si on a envie que tu deviennes notre formatrice régionale ou internationale, je ne sais pas, hein, puisque maintenant on rayonne à l'étranger. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter facilement?
Oui, alors moi j'ai une grosse présence, enfin je sais d'avoir une grosse présence surtout sur LinkedIn, j'ai un site internet aussi qui est une page Google Site à la base. Donc voilà, parce que j'y tiens, je forme, j'utilise, comme je dis, je suis d'abord une utilisatrice avant de former les gens. Donc j'ai aussi j'ai ma page, mais voilà, plutôt accessible depuis LinkedIn, sans aucun problème, je réponds assez rapidement aux messages.
Ouais, je confirme, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, c'est devenu mon canal de discussion avec toi. C'est fou comme c'est rapide. J'adore, c'est très très simple. Donc, tout le monde peut venir t'embêter, te parler, te poser des questions.
Oui, il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis disponible. J'essaie, je me garde du temps pour être disponible, en tout cas pour répondre effectivement aux messages qu'on m'envoie, donc sans aucun problème.
Eh bien, écoute, on essaiera de venir t'embêter de temps en temps pour chiner 2-3 astuces, 2-3 informations et peut-être des formations plus tard. Moi, vous me retrouvez évidemment sur mychromebook.fr, évidemment sur mon profil LinkedIn où j'essaye aussi d'être assez actif. J'adore ce réseau social, c'est devenu mon préféré parce que Twitter a disparu. Et du coup, allez-y, hein, moi j'aime bien être dérangé également, je garde beaucoup de temps et je reste disponible. Et si je réponds pas, c'est que je suis pas dispo, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous aime pas, hein. C'est juste que il fallait que je passe à autre chose. En tout cas, merci Amandine pour pour la soirée, tu nous as proposé, pour toutes tes astuces. Je te dis peut-être à très bientôt dans un autre épisode du CKB Show. Et vous, poditeurs, soignez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, dans 15 jours, pour prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye.
Salut.